Je souhaiterais vous poser une question sur les figures de la sagesse et lire un petit extrait de cet ouvrage de François Julien, donc La pensée chinoise dans le miroir de la philosophie. Il dit, page 613, « La dimension de transcendance de l'invisible ne se constituera donc jamais en quelque être métaphysique. » Donc, c'est ce que vous expliquiez, « ni être ni séparé. La preuve en est que l'on peut passer sans coupure ni discontinuité d'une manifestation visible à sa dimension d'invisible. » Et c'est ce que vous expliquiez, Monsieur David. « Considérons, par exemple, alors le cas du sage. » Celui-ci a dû de s'élever jusqu'au stade de la sagesse à l'accumulation d'actes vertueux, tous tangibles et manifestes, par lesquels il a objectivement modifié sa conduite. Mais cette modification sensible d'un comportement individuel, acquise patiemment par des actions volontaires qui sont comme autant de traces visibles de son itinéraire, est capable de transformer en retour, par influence globale, mais non définissable, le comportement d'autrui. Efficience trop subtile et trop progressive pour être perceptible et qui agit en autrui comme une incitation à la fois indirecte et infinie, de sorte que celui-ci se transforme de lui-même et spontanément. Donc pourriez-vous, chacun votre tour, reprendre donc cette figure de la sagesse, du sage, qui semble être propre à la Chine, et nous dire si finalement elle n'est pas... elle est si singulière à la pensée chinoise ou si on n'en trouve pas une certaine forme aussi dans la pensée biblique.
Si c'est moi qui commence, j'ai pas le temps de réfléchir du coup, donc...
Mais j'ai beaucoup parlé, donc je te laisse la parole.
Oui, sur le sage. D'abord, je veux dire, avant de répondre à la question, je veux dire la chose suivante. François Julien résiste et montre comment il faut résister à un mouvement économique actuel qu'on appelle la mondialisation et qui a pour conséquence l'uniformisation. L'uniformisation, ça veut dire qu'on pense tous la même chose, pareil. Au lieu d'avoir d'un côté de l'eau froide et de l'autre côté de l'eau chaude, on a de l'eau tiède partout. Les mêmes livres sortent dans toutes les librairies du monde, en tout cas pour les best-sellers, et le monde de la pensée tend à s'uniformiser. Et du coup, il s'affadit. Il perd, il devient tiède. Il s'agit de résister à cela et donc de maintenir des ressources différentes en les faisant travailler ensemble dans un vis-à-vis, mais en maintenant à chaque fois leur singularité. La ressource de la sagesse en Chine, la ressource de la philosophie en Occident, c'est-à-dire du concept, le concept étant l'outil forgé par la philosophie pour penser le réel, disons. Pour lire comme ça, mais il y aurait plein de manières d'aborder la question de la sagesse, être sage, ou le sage en Chine, c'est celui qui se rend disponible à ce qui advient à chaque instant où cela advient, qui est disponible au monde tel qu'il advient. Je dis ça par opposition à la philosophie ou à l'Occident qui dédouble le monde entre un monde sensible et un monde intelligible, vous connaissez les idées platoniciennes, qui, cela ayant pour conséquence cette idée que en Occident, on n'est pas disponible au monde tel qu'il advient, mais on cherche à forcer les choses en faisant des projets, en faisant des plans, en ayant un idéal. C'est-à-dire que on pose un idéal et on essaye de faire à tout prix rentrer le réel dans cet idéal, en essayant de forcer les choses pour faire advenir un idéal, un plan, un contrat, quelque chose qu'on a posé, et donc en essayant de que le monde aille vers ce plan que l'on a posé. Or, en Chine, on ne pense pas l'idéal, on ne pense pas le plan, mais on pense la disponibilité à ce qui advient au moment où ça advient. J'ai conscience que ce que je dis peut être très abstrait. Je vais donner un exemple précis. Lorsque on Donc, en Occident, on a cette idée, dans les rapports économiques, l'idée suivante, il faut faire des contrats. Voilà. Quand on veut, par exemple, construire un pont, lorsqu'on demande à une entreprise de construire un pont, ou lorsque vous demandez à une entreprise de repeindre une pièce de votre maison, vous faites un contrat. Et le contrat, ça indique ce qui doit être fait. Bon. Les entreprises françaises qui ont voulu s'implanter en Chine ont rencontré le problème suivant. L'idée même de contrat n'est pas dans la manière de penser de la Chine. En Chine, on s'adapte à chaque fois à la situation. On n'a pas un plan, un contrat qu'il faudrait respecter. D'où des incompréhensions entre les entrepreneurs occidentaux et les Chinois. C'est clair ? Enfin, vous voyez ?
Oui.
Enfin,
oui.
Bernard, forcément, oui, mais oui. Voilà. être Chinois, c'est être disponible aux choses telles qu'elles adviennent et non pas s'en tenir à un contrat. Alors, les Chinois ont, par exemple, mis en place des stratégies, c'est-à-dire que, pour bien montrer comment ça fonctionne, les Chinois négocient un contrat avec des entreprises françaises, et puis, de manière infinitésimale, vont s'écarter peu à peu du contrat. Alors, les entreprises françaises sont désemparées, puisque on s'écarte un tout petit peu du contrat, donc on n'a pas prise sur cet écart minuscule, mais les Chinois vont créer de plus en plus d'écarts par rapport au contrat, qui fait que 6 mois ou 1 an après, on va dire « Ah bah le contrat, il est caduque. Vous voyez bien, on l'a pas respecté, on s'en est éloigné, etc. » Du coup, des incompréhensions entre les entreprises françaises qui veulent s'implanter en Chine et la oui. manière de penser le rapport au réel en Chine.
Oui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand ils nous piquent nos brevets ou quand ils fabriquent la même chose à bon marché dans de mauvaises conditions. Aussi.
Oui, parce que l'idée même de brevet rentre pas dans cette logique.
Mais ça, c'est tout. Mais en même temps, c'est intéressant que tu aies commencé par le concept, parce que concept, c'est métaphysique, le concept. C'est ça qui pose et qui rédige. C'est ça qui pose l'objectivité. C'est l'attitude du concept, c'est l'attitude conceptuelle. C'est pour ça que j'ai toujours des réserves sur la manière dont François maintient la notion de concept. Il la maintient constamment. Je résiste à ça parce que on sait très bien ce que c'est que le concept. Et Heidegger essaie de penser sans concept, justement.
Mais le concept est important parce que le concept, c'est l'outil même de la philosophie. C'est ce qui a permis la science, ce qui a permis la science classique.
Oui, mais c'est pas forcément bon, ça, justement. Et puis le concept, comment ça se dit en allemand? C'est Begriff, c'est Greifen. Greifen, c'est, voilà, je saisis, je capture, je capte. Alors que ce qui se dévoile dans la pensée chinoise, c'est « je ne capte rien, je ne domine rien, il n'y a pas de volonté de puissance là-dedans ». Et justement, il me semble que Heidegger a essayé de constituer un mode de parole, qu'on trouve aussi dans la parole littéraire, puisque dans la parole philosophique, qui ne consiste pas à procéder par des concepts qui maîtrisent quelque chose. On n'est pas dans une stratégie de maîtrise, on est dans une stratégie de laisser venir, justement. Ce qu'il appelle « Gelassenheit ». C'est-à-dire faire confiance à ce qui advient, c'est ça. Et donc c'est plutôt proche du chinois que de la métaphysique traditionnelle. Pour lui, c'est une erreur d'ailleurs de rester enfermé dans l'illusion qu'on va maîtriser par la pensée quelque chose, là où il s'agit plutôt d'entendre, ce qu'il appelle Vernehmen, entendre ce qui vient, plutôt que le saisir ou se l'approprier.
Mais il y a une grande invention de concept chez François Julien. François Julien est quand même un des auteurs des philosophes.
Oui, moi j'appellerais ça des notions, mais est-ce que c'est des concepts au sens traditionnel?
Oui,
je suis pas sûr.
Oui, l'essor, par exemple,
oui,
l'étal.
Mais ce n'est pas des concepts, c'est plutôt des guides dans une démarche de pensée, c'est pas des concepts, justement. Je trouve que c'est pas des concepts qui permettent de sommer une expérience. C'est toute la différence pour moi entre Julien et Badiou. Badiou, c'est que du concept. Donc ça, c'est une fabrique de concepts. Donc chaque semaine, il peut vous fournir de nouveaux concepts pour apparemment maîtriser une situation dont il n'est pas sûr du tout qu'elle soit maîtrisée d'ailleurs ou maîtrisable. Mais c'est autre chose. Mais non, moi, je me méfierais du mot concept. Ça, c'est une divergence que j'ai avec toi et en tout cas avec lui. Je pense que c'est pas utile de maintenir la notion de concept au sens traditionnel. En Grèce, il n'y a pas de concept. Oussia n'est pas un concept. C'est quand on a rédit les choses ensuite que ça devient un concept. C'est avec la scolastique qu'on a absolument des concepts.
Tout à fait.
Mais en Grèce, chez Aristote, chez Platon, tu n'as pas de concept.
Mais parce qu'il n'y a pas de métaphysique.
Polis n'est pas un concept.
Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas que c'est pas intéressant. Le concept est une ressource développée par l'Occident pour penser le réel dont on ne peut pas se passer.
Je ne sais pas si on ne peut pas s'en passer, justement. si c'est, pas ça, c'est une question profonde, les... c'est une question à laquelle justement Julien me conduit.
Dans les Grundbegriffe de Heidegger, le concept est mobile. C'est comme un vecteur qui va du plus près au plus lointain. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas saisi.
Ego cogito, c'est un concept, c'est clair. Hein, ça permet de définir, de délimiter une région qu'on va maîtriser par la pensée. Et chez Husserl, c'est la même chose. Hein, le noèse, noème, intentionnalité, tout ça, ce sont des concepts, c'est une machinerie. Mais quand je lis Aristote, c'est pas une machinerie du tout. Il s'agit plutôt de décrire. C'est justement de la phénoménologie. La phénoménologie pure. Ça, je suis d'accord avec ce que j'ai entrevu dans une lettre de Heidegger à Beaufray. La métaphysique d'Aristote, c'est comme ça que je m'en suis sorti. C'est une phénoménologie de l'entrée en présence. Et si on est dans cette perspective, alors c'est une description. C'est un compte-rendu détaillé, minutieux de ce que c'est que venir en présence. Que venir à Lucia. Alors, ça se décrit un certain mouvement, effectivement. Et le télos, mais le télos, je n'entends pas tout à fait comme Julien et comme toi. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'on est, tributaire d'un but qu'on va se fixer. C'est le fait que quelque chose, c'est ce que dit le mot phusis en grec. C'est, s'épanouir et se développer. S'épanouir et se développer, c'est jusqu'au moment où on va atteindre la culmination de ce dont on est capable. Et ça se transpose absolument dans la vie humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est quelqu'un qu'on va aider, en tout cas qui doit s'employer à déployer de la plus belle des manières toutes les forces qui sont disponibles en lui pour faire de sa vie une œuvre. Et ça, c'est une définition possible de la sagesse, justement. C'est l'éclosion de soi-même sous forme de la plus belle œuvre qui soit possible. C'est ça qui a hanté l'éthique grecque ou la morale grecque, peu importe, et qui est beaucoup moins présent dans le christianisme, mais qui est peut-être aussi présent en Chine. Je connais pas assez la Chine, mais je pense que ça irait plutôt de ce côté-là, justement. C'est vrai qu'en Occident, quand tu dis l'Occident, c'est l'Occident devenu chrétien quand même. On a une visée, on est orienté vers une fin, etc. Est-ce que le messianisme, c'est être orienté vers une fin?
Non, mais de fait, voilà. Quand je dis d'Occident, je veux dire l'histoire de la métaphysique,
oui.
C'est-à-dire un mouvement qui se cristallise chez Suarez, mm-hmm. et se développe ensuite, dont les moments marquants sont Descartes, Fichte ou Searle.
D'accord, voilà. D'accord. Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord. Là, on est en plein concept, effectivement. Là, c'est du concept. Est-ce que la conceptualité prise en ce sens est indispensable? Moi, j'en suis pas certain. Il y avait déjà Bergson qui en doutait fortement. Je vois qu'Heidegger également en doute. Et c'est une différence profonde avec Husserl, sans aucun doute. C'est là qu'il se sépare, effectivement, de la phénoménologie selon Husserl et qu'il essaie de fonder un autre type de phénoménologie qui doit pouvoir se passer du concept. Et dont il essaie de trouver des indices, seulement des indices, c'est pas un modèle, dans la poésie de Hölderlin, la poésie de Trakl, la poésie de Rilke, par exemple.
Au risque de devenir abscon et on n'y comprend plus rien.
Ah ça c'est toi qui le dis, ça c'est ce que disent ceux qui ne veulent même pas Heidegger, qui disent que c'est abscon. Moi j'ai jamais trouvé que c'était abscon, et à partir du moment où François Fédier, j'ai commencé à le regarder en allemand, c'est quelqu'un qui parle un allemand complètement musical, c'est une parole complètement musicale. Absolument maîtrisée, mais musicale et pas du tout jargonneuse. Ça, c'est les mauvaises traductions de Heidegger qui donnent l'impression que c'est abscon. Il n'y a pas plus concrète que la parole de Heidegger, vraiment. Hein. Y compris quand il commente Trakl, qui est un poète extraordinairement difficile, d'une métaphysique assez obscure, effectivement, mais il va vers la clarté. C'est pas par hasard si c'est quelqu'un qui se réclame constamment de ce qu'il appelle Lichtung. Alors, dans Lichtung, il y a Licht, c'est la lumière, mais il y a aussi l'allègement. Hein. Voilà, Leicht. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a tellement parlé de l'éclaircie, de la lumière, de la luminosité, c'est pas quelqu'un qui peut être abscon, je crois. Moi, je le lis pas du tout comme quelqu'un d'abscon, comme quelqu'un qui m'est très proche, au fond. Et très corporel, voilà. Je trouve que le concept manque de corps, souvent. C'est le cas chez Badiou, c'est le cas chez d'autres, beaucoup aussi, y compris chez Kant. Je trouve que le concept manque de corps.
De corps ou de chair?
De corps. De corps, de chair. Les deux. Voilà. Alors que je trouve, chez Heidegger, il y a du corps. Chez les poètes, il y a du corps. Il y a de la Stimmung, en tout cas. Tu vois? Il y a de la tonalité. Mais même si François Julien a écrit un très joli français.
Oui. François Julien a un style.
Ah oui. Très clair. Très clair, ça c'est vrai.
Un style à la fois. Enfin.
Mais justement pas conceptuel. C'est curieux.
Bon, là je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une invention conceptuelle chez François Julien. Et François Julien cherche à penser conceptuellement ceux qui, essayent de penser conceptuellement ce qui est infra-philosophique l'acte même de vivre.
Oui.
Mais il essaye de le saisir conceptuellement.
Bon, mais si tu veux, mais moi je fais une réserve sur le mot concept. Voilà, c'est tout. Ça c'est, et c'est sans doute pas sans raison. Je pense que c'est un débat très intéressant, très important.
Je voudrais juste dire un mot à propos de la citation, enfin une remarque bibliographique, puisque vous allez lire François Julien après. Donc la citation était extraite du premier livre important de François Julien, qui s'appelle « Procès ou création », que François Julien publie en 1989, et qui est repris dans un recueil qui s'appelle, je le montre, qui s'appelle « La pensée chinoise dans le miroir de la philosophie ». L'ensemble des livres publiés par François Julien entre 1989 et le début des années 2000 sont repris dans deux gros livres, qui ne sont pas des livres de François Julien en un sens, mais qui sont deux recueils qui reprennent tous les livres publiés antérieurement. Et l'un de ces recueils s'appelle « La pensée chinoise ». Et ces recueils ont l'avantage d'avoir des index très intéressants qui permettent de retrouver facilement les notions et les auteurs cités. Voilà. François Julien est un auteur qui publie beaucoup de livres et dont le prochain à paraître en mars prochain aux éditions Grasset s'appellera « De l'intime » et réfléchira sur cette notion chrétienne de l'intime, de ce que veut dire l'intime, en montrant que ni en Chine ni en Grèce il y a d'intimité. Le concept même, ou l'idée même d'intimité, le fait qu'il y a de l'intimité est une invention chrétienne. Ça vient de saint Augustin. Hein, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Donc il y a de l'autre en moi. Et en ce moment, il travaille sur la notion de paysage ou d'habiter. Qu'est-ce que veut dire se ressourcer dans un lieu? Donc qu'est-ce qu'un paysage? Voilà. Une remarque bibliographique.
J'ai pensé justement qu'en grec, il n'y a pas de mot qui corresponde à concept. Idéa n'est pas un concept du tout, d'ailleurs. Hein, ça renvoie à la vision, comme beaucoup de mots. Hein. Comme eidos, qui n'a rien à voir avec l'idée, puisque eidos, c'est le visage qui se présente, le visage de quelque chose qui apparaît. C'est ça, eidos. Par contre, le mot qui correspondrait à pensée, il n'y a pas beaucoup de mots qui veulent dire pensée en grec. Il y a noein. Mais noein, c'est pas conceptualisé. Hein. Noein, c'est avoir l'entente de quelque chose, viser en termes d'entente, entendre quelque chose, avoir l'entente de. C'est pas conceptualisé, c'est pas s'emparer en tout cas, c'est le contraire de s'emparer de. C'est pour ça qu'on a commencé par entendre. Vous nous avez posé des questions sur entendre. Qu'est-ce que c'est qu'entendre?
Il est dans la tradition de Cité Philo de laisser la salle poser oui. ses questions. Alors, j'aimerais peut-être peut-on donner le micro ici. Voilà.
Merci. Bon, j'ai deux questions à poser. La première, c'est sur la science moderne, notamment l'astrophysique, dans la mesure où en astrophysique, peut-être aurait-on justement cette idée du processus que vous évoquiez à propos de la pensée chinoise, à savoir que l'astrophysique actuelle a découvert l'historicité de l'univers. C'est-à-dire que ce n'est pas un univers statique, c'est un univers qui a une histoire. Et d'autre part, effectivement, les recherches sur l'atome, la matière, auraient tendance à montrer que justement, il y a peut-être la notion même de matière n'existerait pas, que il n'y a pas vraiment de substance. Donc effectivement, on serait aux antipodes de la pensée philosophique. Je dirais classique, occidental, qui penserait en termes de substance. Et la deuxième question, ce serait de savoir si la Chine est encore la Chine, dans la mesure où effectivement, par rapport à ce que vous évoquiez, on est dans une Chine qui semblerait très occidentalisée, dans la mesure où elle a introduit un modèle économique fondée sur la volonté de puissance et d'hégémonie. Ou alors, est-ce que c'est peut-être notre regard, européen, qui nous fait percevoir la Chine comme telle actuellement?
Je je dis des choses. Alors, rapidement, sur la première question, je veux dire juste en répondant deux phrases. D'abord, je suis pas compétent, mais je sais que des physiciens, Étienne Klein par exemple, sont très intéressés par la pensée de François Julien, et ils trouvent des ressources pour dire ce qu'ils veulent dire en astrophysique. Voilà, sur la première question. Sur la deuxième question, alors j'ai essayé de suggérer en un instant tout à l'heure ce que peut vouloir dire agir ou introduire de l'action pour un Chinois à propos de la relation amoureuse, vous voyez développer sur l'art de la guerre, etc. Effectivement, la Chine aujourd'hui peut jouer d'une ressource ou de l'autre, des ressources traditionnelles chinoises et des ressources occidentales. Voilà. Un entrepreneur chinois, sait jouer sur deux tableaux. Il connaît la manière d'agir, de penser d'un occidental, le contrat, le sujet, l'action, etc. Et en même temps, il a d'autres ressources dont il peut jouer aussi. Voilà. Ce qui rend démunis les occidentaux. On voit, alors, notre exemple, en Chine, alors, pour montrer comment la Chine joue sur ces deux ressources, en Chine, en Occident, on a l'idée d'événement, de rupture, d'action, un sujet pose une action, et on a l'idée de révolution. Bon. On pense le temps à partir du concept de révolution. Et on a des révolutions en Occident. La Russie soviétique s'est effacée d'un coup, révolution, passage à un autre système politique. On voit bien comment en Chine, il n'y a pas eu de révolution. Comment le Parti communiste chinois s'est peu à peu transformé, processus long de transformation silencieuse, mais sans qu'il y ait de rupture. Aujourd'hui, le Parti communiste chinois n'a plus de rapport avec ce qu'il était il y a 30 ans, mais il n'est jamais tombé. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de fin du Parti communiste chinois. Il y a eu un processus long de transformation silencieuse. Le Parti communiste chinois a pu se transformer en s'adaptant à la situation, mais en demeurant toujours présent. Donc on voit comment, politiquement, en Chine aujourd'hui, le Parti communiste a su utiliser des ressources chinoises pour se transformer. Voilà, pour répondre rapidement.
Je dirais pas tout à fait ça. Je vais essayer de répondre aux deux questions.
Mais tant mieux, c'est bien d'être deux comme ça, du coup, il y a de l'écart.
Il y a du mouvement, il y a de l'écart, il y a de l'antre, comme dirait Julien. Très bien, c'est ça qui fait la vivacité de la pensée et de l'échange. Je suis très content de ça, d'ailleurs. Je pense que le communisme de Mao Tse-tung est un communiste qui a su utiliser la singularité chinoise, la singularité de la pensée chinoise traditionnelle. C'est tout à fait évident. Avec ses maximes, justement, lancer les médecins aux pieds nus, revenir aux traditions de la médecine proprement chinoise, millénaire, plutôt que de parier pas sur la médecine occidentale, les fameux médecins aux pieds nus. Une stratégie de la gradation, mais de là à dire que le Parti communiste chinois ne s'est pas occidentalisé jamais, j'en doute fortement, parce que s'il y a au moins une cassure, il y en a une énorme. C'est la décision extraordinairement brutale, et en ce moment il y a un livre qui vient de paraître là-dessus, La Grande Famine en Chine, c'est-à-dire la décision du grand bond en avant de Mao Tse-tung, qui a été strictement l'application d'une méthode stalinienne qui avait réussi en Russie, entre 20 et 30, c'est-à-dire la planification d'une famine pour exterminer toute la paysannerie de la Biélorussie et de l'Ukraine. Mao Tse-tung a fait exactement la même chose en Chine. Pour l'industrialisation de la Chine, il a sacrifié des millions de paysans en Chine. Et ça s'appelle la grande famine de 52 qui a été étouffée, qui ne paraît pas dans les rapports officiels, mais qui a été une abomination autant que la famine en Ukraine et en Biélorussie, où les gens sont morts de faim. Je crois qu'il n'y a pas une pire mort que la mort de faim, avec tout ce que ça implique, des pratiques d'anthropophagie, etc. Enfin, c'est une abomination. Donc, il y a eu quand même cette cassure-là. Il y a une continuation entre Staline et Mao, de ce point de vue-là, qui est claire. C'est sur ce genre de questions, évidemment, qu'il y a eu rupture à la fin avec Badiou, qui continue lieu de soutenir imperturbablement certaines politiques d'extermination. Alors sur la première question, je répondrai que c'est sans doute une illusion de faire croire que la science moderne serait débarrassée de la métaphysique parce qu'elle serait débarrassée de l'idée de substance. Il y a quelqu'un qui l'a bien montré chez nous, qui est un vulgarisateur de talent, qui s'appelait Bachelard, Gaston Bachelard, qui a écrit « Le rationalisme appliqué ». et qui a décrit l'émergence de ce qu'il appelle très justement l'épistémologie non cartésienne, c'est-à-dire le fait de penser en termes purement mathématiques, plus du tout en termes représentatifs. Et alors moi, personnellement, je parle que de moi, là, je suis fasciné par toutes les travaux qui ont lieu en astrophysique, ça me passionne, et en même temps, je me méfie de ma passion, parce que il y a quelque chose d'absurde là-dedans, qui est que on est intéressé par ça pour des raisons très passionnelles, très émotives, très fantasmatiques, alors qu'en réalité, c'est une entreprise de conquête par la mathématisation de ce qu'on appelle l'univers, mais qui n'est pas l'univers, qui est un objet scientifique qui se déploie à l'intérieur du langage de la science, mais qui n'a aucun rapport avec ce qui peut nous faire rêver, nous, dans les étoiles, le soleil, les planètes, etc., et les constellations, hein. De ce point de vue-là, l'imaginaire se déploie, c'est l'empire des étoiles, c'est la guerre des étoiles, plutôt, et puis, il y a de l'autre côté, le travail scientifique est un travail qui est complètement métaphysique, si on appelle métaphysique la perpétuation de cette entreprise de domination intégrale de l'étang par la conceptualité, sauf qu'aujourd'hui, c'est une conceptualité mathématique. Ça aboutit à une mathématisation intégrale, d'où d'ailleurs les travaux d'Étienne Klein qui m'intéressent beaucoup, qui sont très sympathiques, qui montrent que la notion d'origine de l'univers n'a pas de sens, parce que le concept d'origine n'est pas scientifique, ça ne rentre pas, et l'idée même d'un commencement de l'univers, ce commencement n'a aucun sens en termes mathématiques, parce qu'on arrive à ce moment-là à des équations qui ouvrent à l'infini, etc. Et donc là, on est dans des termes qui ne sont plus mathématisables, donc qui n'ont aucun sens. Donc c'est nous qui fantasmons sur l'origine de l'univers, mais pour l'astrophysicien, ça n'a aucun sens scientifique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question ou à côté.
Mais... Oui, bonsoir, je profite, j'ai eu le micro. Deux questions. Comment, dans la pensée chinoise, peut-on traduire le concept, pardonnez-moi, le concept qui nous est bien cher, qui est celui de la vérité universelle? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est pour Pascal. Comment réagis-tu à cet énoncé que la perte de la vitalité poétique de la religion est plus importante que celle de sa vitalité théologique? C'est ce que M. Serre a dit tout à l'heure.
Oui. C'est à qui il a posé la question aussi, hein, la vérité.
Sur la deuxième question, j'en sais trop rien. En tout cas, sur la première, l'idée même de vérité, ou le concept de vérité, est un produit de la pensée occidentale. La vérité, c'est l'adéquation, pour dire simplement, il y aurait d'autres manières de dire les choses, bien sûr, j'ai conscience que c'est qu'un aspect de la question de la vérité. La vérité, c'est l'adéquation entre une chose et l'idée qu'on en a. Donc, le concept même de vérité suppose une pensée de la chose, c'est une certaine pensée de la permanence. Mais au-delà de ce que je viens de dire, qui est un seul aspect d'une réflexion sur ce que c'est que la vérité, le concept de vérité est un concept occidental. On a inventé la vérité en Occident. Comme on a inventé la liberté, comme on a inventé Dieu, comme on a inventé tous ces concepts-là qui nous permettent de nous rapporter au monde, de le constituer, mais la Chine pense ailleurs, pense autrement que de cette manière-là. Ensuite, je ne suis pas très à l'aise avec cette opposition entre poésie et théologie. Je dirais, pour dire simplement, ce qui m'intéresse, c'est la pensée biblique. C'est la manière dont la Bible ouvre des possibilités de pensée, beaucoup plus que la théologie comme système. Voilà.
Oui, je vais rebondir là-dessus, tout à fait, c'est ça que j'avais en tête. C'est-à-dire que tirer trop la religion, en tout cas la religion chrétienne dont il est question ici, vers la théologie, entendu au sens de la théologie scolastique, c'est assurément la tirer vers la métaphysique, dans ce qu'elle a de plus conceptuel et de plus éloigné, je dirais, d'une expérience religieuse. Moi, j'opposais expérience religieuse vivante et puis... conceptualité théologique, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de tourner le dos à la théologie, ça veut dire que ce qui fait la vitalité d'une théologie, c'est la façon qu'elle a de traduire une expérience que Julien appellerait infra-philosophique d'ailleurs, une expérience du divin et du sacré. Pour moi, c'est plus important même que l'idée de religion, parce qu'il y a expérience du divin et du sacré avant que se construise, s'élabore, se théologise une religion. D'ailleurs, en Grèce, il n'y a pas vraiment de théologie. Hein. En Grèce, il y a une profonde expérience du divin et du sacré, Et là, je me séparerai de Saint-Augustin, parce que je trouve que la malédiction lancée par quelqu'un comme Saint-Augustin contre la religion grecque prouve qu'à son époque, en tout cas, la religion grecque est arrivée à un degré de telle décomposition qu'on pouvait sans doute dire ça sans drame. Mais si on regarde ce qu'a été la religion grecque, dans la mesure où elle s'est exprimée dans des textes, dans des rituels, dans des poèmes, dans des sculptures, il est clair que c'est une religion qui tient, c'est une expérience religieuse profonde, une expérience du divin et du sacré. Et je pense que la théologie est vivante aussi longtemps qu'elle s'appuie sur une expérience vivante du divin et du sacré. Voilà. Et que dans l'expérience scolastique, c'est vrai qu'on verse vers quelque chose qui n'est pas incompatible avec cette expérience à l'époque. Mais je pense que cette théologie, elle est en un sens devenue quelque chose de beaucoup trop conceptuel et métaphysique et qui perd le contact avec ce sans quoi il n'y a pas de religion vivante, c'est-à-dire une expérience véritable du divin et du sacré. Voilà. Et cette expérience du divin et du sacré, il est clair qu'elle est vivante chez quelqu'un comme Hölderlin, absolument. Elle est encore vivante chez Trakl. Et la question, c'est dans quelle mesure, dans la poésie, nous avons encore quelque chose de l'ordre de cette expérience. Et c'est à mon avis aux théologiens d'être pas simplement un défenseur du dogme, mais d'être aussi quelqu'un qui est à l'écoute de ce que peut être une expérience contemporaine du divin et du sacré. Ça, c'est la question que je me pose. J'ai pas la réponse, d'ailleurs. Je pense que cette expérience, aujourd'hui, est profondément menacée. Et que l'idée d'un monde dans lequel il n'y a plus aucun divin, aucun sacré, est une représentation qui, personnellement, m'épouvante. Ça, je peux vous le dire comme ça. Voilà.
Bien. Il me semble que François Julien attire en particulier notre attention sur ce que ne dit pas la langue et la pensée chinoise. Il propose notamment le concept de l'antre et de l'écart. Alors, vous l'avez cité brièvement, est-ce qu'il est opératoire, est-ce qu'il l'utilise dans l'analyse de l'altérité religieuse ? Sur les transformations silencieuses que François Julien définit comme ce qui chemine dans le silence sans qu'on en parle, donc écart par rapport au logos occidental, mais il fait partie de 5 concepts, d'ailleurs c'est le titre de son ouvrage, c'est parmi 5 concepts qu'il propose à intégrer avec la défixation, l'allusivité, la disponibilité, le biais au dispositif freudien. Alors, est-ce qu'il propose d'autres concepts pour l'analyse de l'idéal chrétien ou de la religiosité occidentale ? Merci.
Alors, je vous demanderai de répondre peut-être un petit peu rapidement parce qu'on doit libérer la salle à 19h.
Oui, en un instant alors. Il y a une idée chrétienne centrale qui est propre, enfin en tout cas dans sa formalisation qui est propre aux chrétiens, qui est le concept de Trinité. Or le concept de Trinité permet de penser un Dieu vivant, c'est-à-dire permet de penser un Dieu qui passe dans son autre, permet de penser de la décoïncidence. Être vivant c'est quoi ? C'est changer, c'est se transformer, c'est décoïncider. La Trinité comme concept est une invention géniale puisque ça dit ce que c'est que vivre. Je ne sais pas si je réponds à votre question, en fait.
Je veux bien dire deux choses très rapidement, en 2 secondes, mais sur... Moi, je n'aurais pas pris la Trinité, mais j'aurais pris le nom du Père. Le Père, qu'est-ce que c'est qu'un Père ? Parce que c'est notamment à travers cette question que j'interviens dans le débat de la revue Esprit, de la revue Esprit, sur la question du mariage gay. C'est que ce qui me semble attaquer là-dedans, c'est effectivement le nom du père et la paternité, fondamentalement. Que c'est ça qu'on vise à faire disparaître. Et c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord. Mais je dirais encore autre chose. Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est difficile à dire de manière très courte. François Julien, je dirais simplement, voilà, c'est ça. C'est que ce sur quoi se fonde, me semble-t-il, j'aurais pas pris la Trinité, j'aurais pris la parole, l'appel. Et c'est là-dessus que, sans doute, j'ai une divergence avec François Julien, qui essaie de nous faire entendre, à travers le fait que le ciel ne parle pas, qu'il n'y a pas d'appel. Et c'est un débat que j'ai en même temps. Alors, il y a une trace de ça dans un petit livre de mon ami psychanalyste, qui est athée, lui, qui s'appelle Jean Alouche, qui s'appelle « Prisonnier du grand autre ». Alors, je fais partie, selon lui, des prisonniers du grand autre. Et il étudie mon bouquin « L'être et le divin ». Il me répond. Effectivement, il dit l'autre n'appelle pas, il n'y a pas d'appel. Alors s'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de christianisme en effet, parce que si Dieu n'appelle pas, il n'y a pas de réponse de l'homme. À ce moment-là, il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas de christianisme non plus. Est-ce qu'il y a un appel en Grèce? Je n'en sais rien. Est-ce que chez les Chinois, il y a un appel? Sans doute pas. Il n'y a pas de parole, ça m'a le plus frappé dans les textes de Julien. Le monde n'appelle pas. Le ciel n'appelle pas, le ciel ne parle pas, alors qu'il y a une dimension de l'appel qui est constitutive, en effet, je dirais, du sujet ou du soi en Occident. Ça, c'est tout à fait évident, et qui est le ferment vif, vital du christianisme. Et alors ça, Julien n'en parle pas, puisque pour lui, la question de l'appel ne se pose pas en Chine. Donc, il marque plutôt là la divergence entre deux univers, sans trancher, bien sûr. Il ne s'agit pas de les opposer, mais il constate l'absence totale de cet univers de la parole comme parole adressée dans le Tao, par exemple. Il se reporte à ça. Le ciel ne parle pas.
François-Julien permet de raviver les ressources que fournit la théologie chrétienne pour vivre. Voilà. Le passage par la Chine permet de comprendre le rôle de la parole ou le rôle du concept de Trinité, les ressources que fournissent ces concepts-là pour vivre. Je dirais ça comme ça. Mais ça répond pas. Mais j'ai du temps après, on pourra continuer à discuter.
Bien. Merci beaucoup. Merci à chacun d'avoir répondu, en tout cas, à l'appel de Cité Philo. Merci à tous d'être venus.